Je sais pas jusqu'à quel point on pensait vraiment que David Lemieux avait une chance d'être l'adversaire de Canelo Alvarez dans un gala au Madison Square Garden ou ailleurs le 15 décembre, mais tel ne sera pas le cas. Canelo Alvarez a lui-même émis ou publié sur Twitter l'identité de son prochain adversaire. Ce sera Rocky Fielding, qui est le champion des super moyens de la WBA. Donc, ce sera une autre date pour David Lemieux. Parlant de boxe, juste vous rappeler que Beterbiev est aussi en action demain. Lui qui n'a que 12 combats chez les pros, 12 victoires par knockout contre Callum Johnson. C'est un combat qui aura lieu à Chicago. Et bien sûr, le gala qu'on vous diffuse en direct de Québec demain soir. Maintenant, on se tourne du côté de Philippe Quentin. Bien le bonsoir, Philippe.
Salut, Mario.
En ce début de long week-end où il y aura beaucoup d'événements sportifs à surveiller, et on va regarder le Canadien contre les Penguins de Pittsburgh. On est curieux de voir comment, par exemple, un Jonathan Drouin va rebondir dans son deuxième match, n'est-ce pas?
Oui, il va falloir qu'il rebondisse parce que c'est un mauvais match qu'il a joué à Toronto. Il a été un des moins bons attaquants du Canadien, un des moins efficaces. J'ai une séquence particulièrement en mémoire, Mario, là, en fin de deuxième période, quand le Canadien profite d'un avantage numérique pour égaliser la marque. Ce qu'ils vont faire, finalement, mais avant ce but-là, Drouin a eu de la misère à contrôler la rondelle, s'est fait rattraper par un rival alors qu'il filait vers le territoire adverse. Et tu sais, tout ça ne cadre pas avec tout ce qu'il nous a dit au camp d'entraînement, qu'il se sentait plus plus dynamique, qui sentait plus de puissance dans son coup de patin, tout ça. Et c'est le Jonathan Drouin qu'on voudrait voir. C'est le Jonathan Drouin qui est capable d'insuffler beaucoup d'énergie à l'attaque du Canadien. Et là, l'an dernier, là, force est de constater, il a eu une mauvaise saison. Mm-hmm. On peut, toutes sortes de raisons, le centre, l'aile, l'arrivée à Montréal, une équipe qui va pas bien, tu sais. Le contexte était peut-être pas favorable.
Mais c'est fini. Hein?
Mais c'est fini. c'est ça, exactement. Puis là, on repart sur des bases neuves. Et là, dès le premier match de l'année, il fallait pas nécessairement qu'il soit le champion de cette rencontre-là, mais c'est quand même décevant, Mario, de constater que dans le petit nombre de joueurs qui ont déçu dans cette rencontre-là, parce que le Canadien est allé d'un effort assez extraordinaire, qu'on retrouve son nom. Tu sais, quand Marc Bergevin a fait son acquisition à Jonathan Drouin, en retour d'un espoir de premier plan, Mikhail Sergachev, tout de suite, avec raison, parce que c'est ça que ça demandait, le gros contrat, 6 ans, 5,5 millions par année, contrat de 33 millions au total, mais avec ça viennent des responsabilités importantes. Il faut qu'il soit un des fers de lance, un des principaux fers de lance de l'attaque du Canadien. On ne l'a pas vu l'an dernier, on espère le voir cette année, puis là, c'est dès le premier match, ça n'a certainement pas été le cas.
Alors, mais quand tu penses à ça, Philippe, tu sais, veux pas, puis je vais être bien candide, quand j'ai appris la question de Jonathan, mais c'est pas moi qui l'ai dépisté, là. J'ai pas épié tous ses défauts dans tel ou tel match, là. Moi, j'ai vu les faits saillants et quelques matchs où il a été très, très bon dans une très bonne équipe. Ouais. Mais quand tu regardes ça, le contrat qu'on lui a donné, là, on lui a donné après 29 buts dans la Ligue nationale.
Ouais, 29
buts marqués sur 3 saisons.
Exactement.
C'est vite,
mais bon,
contrat Carey Price, tu sais.
Mais tu veux t'assurer que le gars arrive dans des bonnes dispositions, puis je sais que ça paraît un peu absurde de dire ça, coudon, 5,5
Il pourrait être une aubaine vers la fin de son contrat s'il se met à cartonner,
ça
qu'on a hâte de voir.
C'est ça. Et moi, je pense que là, qu'on le veuille ou non, Mario, aussi, c'est que je pense que tout le monde veut que Jonathan Drouin réussisse. Mm-hmm. Évidemment, un gars de la place, c'est tellement stimulant de le voir dans l'uniforme du Canadien. L'an dernier, il n'a pas eu à souffrir de ses performances auprès de son appréciation par le public. Il n'a pas été hué, il n'a pas été chahuté. Je pense que tout le monde était prêt à lui donner une chance, là. Puis tout le monde a réalisé aussi que l'an dernier, là, le contexte n'était pas bon. Puis en plus, on a senti quand même une progression au fil de l'année, mais bien sûr, dans des rencontres qui ne valaient plus, qui n'avaient plus beaucoup de signification. Puis moi, je me méfie toujours un peu de ça. Alors, mais là, cette année, il va falloir vraiment qu'il se prenne en main, puis qu'il connaisse des gros matchs. Il faut qu'il soit là. Il ne faut pas qu'il soit là une rencontre sur trois. Il ne faut pas qu'il joue un bon match. Non, il faut qu'il soit régulier, constant, puis qu'il fasse, qu'il donne une étincelle à l'attaque du Canadien. Et moi, je ne le vois pas à l'heure actuelle. Je ne l'ai pas vu dans cette première rencontre-là. Et c'était une occasion de briller. Gros match, là, diffusé partout au Canada. Canadien-Toronto. Tu sais, tu ne peux pas avoir plus gros que ça comme scène. Et il me semble que pour lui, c'était une belle occasion. Alors là, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais il faut absolument que Jonathan Drouin, pour que le Canadien atteigne ses objectifs objectifs cette année. C'est quoi ses objectifs? Ben, c'est potentiellement lutter pour une place en série, mais surtout, tu sais, être, donner un spectacle, du jeu excitant, du jeu stimulant, que les gens, que les spectateurs aient le goût de prendre pour le Canadien. Chose que l'an dernier, là, on sentait. Puis, il y avait un désabusement face à cette équipe-là, bien compréhensible d'ailleurs. Mais pour ça, là, dans mon esprit, Mario, clairement, Jonathan Drouin a un rôle central à jouer.
Tu sais, j'écoute tes commentaires, puis on a beaucoup parlé de Jonathan cette semaine, là, puis il y a juste un match de jouer. Puis là, je me dis, hey, ça doit être spécial pareil. Tu sais, t'es monsieur ou madame Drouin, les parents de Jonathan. Ouais. Et dans le fond, tu sais, quand tu dis, on veut qu'il réussisse. Puis l'analogie que j'ai envie de te faire, c'est que je m'excuse, monsieur et madame Drouin, mais on l'a adopté, Jonathan. Fait que là, c'est le fils à tout le monde. Et on n'est pas toujours reposant avec nos fils et avec nos filles parce qu'on veut qu'ils brillent. Et c'est vraiment ce sentiment d'appropriation qu'on a avec un gars de chez nous. Et j'espère qu'il va en sortir avec panache dès le match de demain.
Puis il faut bien comprendre, là, on veut pas nécessairement qu'il marque à tous les matchs ou qu'il en sorte avec deux aides puis qu'il ait la première étoile. C'est pas ça, l'idée. Mais l'idée, c'est qu'on le remarque pendant les matchs, qu'il provoque des choses. Puis là, est-ce que c'est l'an dernier, on l'a pas senti en pleine confiance pendant une grande partie de la saison. Et là, moi, ce premier match-là m'a un petit peu inquiété. Puis j'espère que vite, il va retrouver ses marques. Je suis content d'une chose, par exemple, c'est que Claude Julien n'effectue aucun changement à sa formation. Bon, il va rester avec ses partenaires de jeu là, avec lesquels on souhaite qu'il développe une chimie au fil du temps. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais encore une fois, demain, un gros match. Ça serait vraiment le fun de le voir rebondir.
Les chances de Calgary d'obtenir les Jeux olympiques d'hiver de 2026, Philippe?
Écoute, je vais en parler, picher, là, les gens. Pourquoi on parle des Jeux olympiques de 2026 ce soir? Hey, c'est dans 8 ans. Ben, on en parle pour deux raisons, Mario. D'abord, c'est parce que cette semaine, le Comité international olympique a validé la candidature de Calgary. Il y aura une autre validation la semaine prochaine. Mais ce qu'ils ont fait, surtout le Comité international olympique, c'est qu'il y avait 4 villes qui étaient intéressées à présenter ces Jeux-là. Et là, ils ont exclu la ville turque d'Erzurum, qui était intéressée. Ils ont dit, Erzurum, regrettable, mais vous n'êtes pas prêts. On ne peut pas vous compter là, parmi les finalistes potentiels aux Jeux d'hiver de 2026. Alors là, il reste 3 villes. Calgary, Stockholm et une candidature là, de Milan et Cortina d'Ampezzo en Italie. Mais je regardais ça aujourd'hui, Mario. Est-ce que tu sais que c'est possible qu'aucune de ces candidatures-là, ça fonctionne? Et là, je me dis, le Comité international olympique ferait quoi dans ces circonstances-là? Et c'est pas un scénario absurde. À Calgary, le mois prochain, le 13 novembre, il y a un référendum. Est-ce que vous voulez que Calgary soit candidate à l'obtention des Jeux olympiques de 2026? Il y a une grosse campagne à l'heure actuelle à Calgary. Il y a un comité du oui, puis il y a un comité du non, puis sur Twitter, ça barde, puis le comité du non, il est très actif, puis il souligne ce qu'il considère les manquements dans la candidature de Calgary, puis le comité du oui, ils font des assemblées publiques, ça essaie de convaincre les gens. Bref, là, c'est une vraie campagne électorale qui a lieu là-bas. Mais si le non l'emporte, c'est fini. La candidature à Calgary, il n'y en aura plus. Et là, il va rester donc celle de Stockholm et celle de la candidature italienne, Milan Cortina d'Ampezzo. Mais dans les deux cas, à l'heure actuelle, il n'y a pas de soutien gouvernemental du gouvernement fédéral. Il n'y a même pas d'indication qu'il y en aurait un. En fait, en Italie, semble-t-il que c'est même un peu le contraire. Et l'appui politique, là, donc, et à Stockholm, notamment, est très faible, selon tous les rapports de presse que j'ai pu consulter. Et en Italie, ben, dans la région de Milan, oui, le maire est pour, puis tout ça, mais il y a encore un certain nombre, beaucoup, en fait, de fils à attacher. Alors, tu pourrais te retrouver avec Stockholm, qui pourrait dire, ben non, finalement, on n'y va pas. Puis Milan, Cortina d'Ampezzo, c'est pas sûr que ça va fonctionner.
Ils vont appeler Poutine, ils vont savoir organiser ça.
Ben, écoute, c'est peut-être ça qui arriverait. C'est peut-être ça qui arriverait, parce qu'oublie pas une chose, c'est qu'Erzurum, dont je parlais tantôt, la ville turque, il leur manque beaucoup d'installations. Alors, là, une idée qu'ils avaient évoquée, là, pour certains sports, je pense notamment le ski, tout ça, on va faire ça à Sochi, c'est pas trop loin. Alors, tu vois, déjà Sochi, où ont lieu les Jeux de 2014.
Les Russes sont jamais bien loin, peu importe le dossier de nos jours,
ça,
je vais te dire.
C'est ça. Affaire. Alors, mais ça va être super intéressant à suivre, puis c'est pour ça que je voulais en parler ce soir, même si c'est dans 8 ans.
Un mot sur un retour sur la Coupe Ryder. Oui. Ça n'a pas donné le spectacle auquel on s'attendait. C'était quand même divertissant.
Ben, moi, j'adorais ça.
Ouais, non, mais c'était bon. Là.
Mais je prenais pour les Européens.
Ah, ben là, c'est pour ça. Ben moi, je prends toujours pour le show, Philippe.
Ouais,
c'était
un bon show.
Et le suspense, c'était pas là jusqu'à la toute fin. Alors, en
c'est
ce sens, c'était pas historique. Mais
t'as
c'était
raison.
Bon. Mais là, on comprend que... Puis, on comprend deux choses. Peut-être pourquoi les Américains ont pas aussi bien joué qu'on l'aurait souhaité, dans certains cas. Et pourquoi Patrick Reed n'est pas le joueur le plus populaire sur le tour de la PGA. PGA. Hein?
Ben c'est ça. C'est que là, il y a eu beaucoup d'informations qui sont sorties. Et là, il y avait des chicanes, manifestement, dans l'équipe américaine. Et c'est un reportage absolument intéressant du New York Times qui a été écrit dans les heures qui ont suivi la fin de la Coupe Ryder. Donc, ça s'est terminé, comme on le sait, dimanche. Et dans la Coupe Ryder précédente, Patrick Reed et Jordan Spieth avaient fait équipe ensemble. Et ils avaient eu beaucoup de succès. Mais là, Spieth, semble-t-il, a voulu jouer avec son ami d'enfance, Justin Thomas, qui est un autre grand joueur, évidemment. Mais surtout, semble-t-il qu'il ne voulait pas jouer avec Patrick Reed. En tout cas, c'est ce que Patrick Reed a dit dans une entrevue au New York Times. Puis il dit, moi, je me fous de jouer avec quelqu'un que j'aime plus ou moins. Mais il dit, je pense qu'ensemble, on avait un duo gagnant. Puis à la place de ça, il a joué avec Tiger Woods. Puis on sait, Tiger Woods, ça a été passablement désastreux à la Coupe Ryder, tout comme Phil Mickelson. D'ailleurs, permets-moi juste de poser cette petite question. Après avoir vu la Coupe Ryder, là, et avoir vu Woods et Mickelson connaître autant d'ennuis, je peux dire que je ne paierai pas grand-chose pour voir le duel entre les deux que la télé américaine nous promet.
C'est une bonne observation. Honnêtement, ça, c'est une balloune. Je ne sais pas s'il y a déjà eu de l'air dedans, mais s'il y en avait, il y en a plus tellement.
La Coupe Ryder n'a pas aidé, hein?
Non.
La Coupe Ryder
a souvenir. Mais en même temps, moi, je te dirais que c'est la victoire de Tiger. Tiger a l'air au-dessus de Mickelson en ce moment.
Ouais, c'est ça. Puis, mais je complète. Un dernier
il va gagner
sur
le Masters.
Ryder.
T'as 5 secondes.
Je te compterai ça la semaine prochaine. Ça mérite plus que 5 secondes.
Désolé, Phil. Désolé. À la semaine prochaine.
Salut.
Marc-Antoine Godin au retour.